de suite, c'est le journal d'Antoine Mercier. Antoine, bonjour.
Bonjour Olivia, bonjour à tous. Un projet de loi logement au Conseil des ministres pour, avec pour objectif de faciliter la construction, mais aussi de réorganiser le secteur des HLM. Précision dans cette édition avec Léa Gage. C'est le deuxième jour de grève à la SNCF avec des perturbations équivalentes à peu près à celles d'hier. On fera le point sur la suite avec Hakim Kasmi. Le point aussi sur ce mouvement dans les universités avec un deuxième site bloqué à Paris, la faculté de lettres de Sorbonne, Université Paris 4. La direction de l'établissement décide de fermer donc cette faculté, précision avec Mathilde Erard. Nouvel épisode de la guerre commerciale sino-américaine. Les États-Unis annoncent l'instauration de droits de douane pouvant atteindre 25% sur 1300 produits technologiques chinois, valeur 50 milliards de dollars d'importation, et la Chine qui annonce une réplique de même ampleur. Analyse avec Anne-Laure Chouin. Spotify entre à Wall Street et finit sur un gain de près de 13%. Le numéro 1 mondial de la musique en ligne n'a jamais réalisé pourtant le moindre dollar de bénéfice, mais il revendique 71 millions d'utilisateurs payants. Dossier explication de Marie Viennot. L'avenir de la Syrie au centre de ce sommet turco-russo-iranien qui débute en ce moment même à Ankara. Entre Recep Tayyip Erdogan, Vladimir Poutine et Hassan Rouhani, on en parle avec Antoine Basbous, directeur de l'Observatoire des pays arabes. Et dans la dernière partie de la grande table, Olivier Jesbert.
Entre colère et fierté, enjeux politiques et culturels, assiste-t-on en France aussi à un retour de la question noire? On a posé et on va poser la question à notre invité, l'historien Papendia. Il a été vraiment pionnier dans la recherche sur les Black Studies en France, ici avec son ouvrage de référence, La condition noire, et c'est sur une minorité française. Il est donc l'invité de la deuxième et dernière partie de la grande table.
On commence par ce projet de loi logement, donc en Conseil des ministres ce matin, un texte baptisé « Élan » pour évolution du logement et aménagement numérique. Il va être débattu au Parlement à partir du mois de juin. Il y aura plusieurs objectifs qui sont affichés. D'abord, faciliter la construction, sanctionner aussi les plateformes de location touristique aux pratiques illégales, mieux sévir contre les marchands de sommeil, mais encore réorganiser le secteur HLM. On va en dire un mot plus spécifiquement. Bonjour Léa Gage.
Bonjour.
Alors comme souvent avec ce gouvernement, il y a des mesures très nombreuses, parfois disparates, qui sont annoncées dans un même texte et il faut donc s'efforcer de les classer pour voir la direction générale.
Oui Antoine, et comme souvent, il y a la carotte et le bâton. La carotte, c'est pour les professionnels du bâtiment. On libère, on dérégule, on défiscalise avec des délais raccourcis pour juger les recours contre les permis de construire et moins de normes d'accessibilité pour les personnes handicapées. On passera de 100% à 10% de logements accessibles. Les autres seraient uniquement adaptables. Le bâton, il est financier, c'est pour les marchands de sommeil, ces propriétaires de logements vétustes. Et le gouvernement s'attaque aussi aux plateformes de location saisonnières. Désormais, elles seront sanctionnées jusqu'à 50 000 euros d'amende. Quant aux loueurs, ils devront transmettre le décompte de leur location à la commune. Sinon, gare à l'amende, elle sera salée, 5 à 10 000 euros.
Alors le volet qui suscite le plus de critiques, c'est cette réorganisation du secteur HLM et certains s'inquiètent même d'une forme de privatisation du secteur.
Mais en fait, il y a trois mesures qui font grincer des dents les organismes HLM et les locataires. D'abord, le gouvernement veut scruter les revenus des occupants. S'ils sont trop élevés, il faudra payer plus ou partir. Il veut aussi regrouper les petits bailleurs sociaux en mettant leurs ressources en commun. Sur ce point, la Confédération nationale du logement craint une gouvernance éloignée du terrain. Ensuite, le ministère du logement veut mettre 40 000 HLM sur le marché, contre 8 000 aujourd'hui. Et c'est là que le secteur privé pourrait s'engouffrer dans la brèche selon les bailleurs sociaux. Ils voient déjà les sociétés foncières lorgner sur le parc du logement à loyer modéré, qui ne serait alors plus immodéré que ça, c'est leur crainte. Il faut dire que ça représente plus de 20 milliards d'euros de loyers collectés chaque année, de quoi attirer le privé qui se précipiterait sur des biens boudés par les particuliers et souvent inaccessibles à l'achat ou à l'entretien pour les locataires.
Merci beaucoup Léa Gage. C'est le deuxième jour de grève à la SNCF avec des perturbations équivalentes à peu près à celles d'hier. Un TGV sur 7, un train régional sur 5 en moyenne. Des assemblées générales qui se déroulent en ce moment pour décider de la suite du mouvement. Un mouvement qui est annoncé, on le sait, pour durer près de 3 mois. 2 jours de grève par tranche de 5 jours. Hakim Kasmi, bonjour.
Bonjour Antoine Mercier.
Alors aujourd'hui, donc, ça ressemble à peu près à hier au niveau des perturbations. Mais il faut dire qu'il y aura encore quelques perturbations demain, jeudi, demain matin.
Oui, plusieurs raisons expliquent pourquoi il y aura encore des perturbations demain. Avec la grève, les conducteurs n'ont pas pu rejoindre leur dépôt et surtout leur train de départ. Ce sont les fameux découchés. Car pour qu'un train parte de Marseille, par exemple demain matin, il faut que le conducteur arrive dès ce soir à son hôtel Gare Saint-Charles. Il y a aussi les plannings de maintenance, les plannings aussi des trains qu'il faut faire la veille. Et là, avec la grève, eh bien, pas de mécanicien, pas de conducteur, donc difficile de faire partir tous les trains à l'heure dès demain matin, car le ferroviaire, Antoine, c'est une chaîne. Et dès qu'il manque un maillon, eh bien, tout s'embrase.
Voilà, c'est comme la radio un petit peu. Prochain jour de grève pour samedi et dimanche prochain, donc nous sommes les 8 et 9 avril. Entre-temps, il va y avoir des négociations qui devraient s'ouvrir. Qu'est-ce qu'il faut en attendre au vu de ces deux premiers jours de conflit?
Eh bien, pour l'instant, il faut s'attendre aux mêmes prévisions que ces deux derniers jours, voire pire, car des assemblées générales se tiennent en ce moment et les salariés sont remontés plus que jamais face au silence du gouvernement. Pour eux, ils estiment que le gouvernement joue la carte du pourrissement. En effet, pour l'instant, la ministre des Transports, Elisabeth Borne, qui est en première ligne dans ce dossier, refuse de reprendre les discussions. Les syndicats nous expliquent qu'elle pourrait revenir à la table des négociations demain ou vendredi, mais avec quel débouché, c'est là toute la question, puisque l'intersyndicale dénonce le fait qu'il n'y ait aucun document de travail sérieux avec des propositions écrites sur lesquelles travailler. Pendant les entretiens, tout se passe à l'oral, et ensuite c'est le cabinet qui envoie un compte-rendu qui souvent diffère de ce qui s'est dit dans le cabinet entre les syndicats et la ministre. Pour Sud, il faut même durcir le mouvement, d'où des préavis reconductibles toutes les 24 heures, car ce qui a mis le feu aux poudres, Antoine, eh bien, c'est le fait qu'hier, les députés de la majorité ont demandé à ce qu'il y ait un premier vote dès le 17 avril du projet de loi à l'Assemblée nationale, d'où une réunion d'urgence demain avec l'intersyndicale.
Hakim Kasmi, merci. Donc 8 et 9 avril, c'est dimanche et lundi prochain, et non pas samedi et dimanche, comme je l'ai dit par erreur tout à l'heure. On fait le point maintenant sur ce mouvement dans les universités, avec un deuxième site bloqué à Paris par des opposants à la loi sur les nouvelles modalités d'accès à la fac. C'est la faculté de lettres de Sorbonne Université, c'est Paris 4. La direction de l'établissement a finalement décidé ce matin de fermer le site. À Paris, il faut rappeler qu'à Tolbiac, donc Paris 1, est également bloqué depuis 10 jours. Et ce matin, la ministre de l'Enseignement supérieur, Frédéric Vidal, dénonce une campagne de désinformation. Mathilde Erard, bonjour.
Bonjour.
Alors comment peut-on dire que ce mouvement évolue aujourd'hui?
Eh bien, les mobilisations étudiantes se poursuivent aujourd'hui contre la loi sur les nouvelles modalités d'accès à l'université. Ce matin, l'université de Bourgogne à Dijon a organisé une assemblée générale et deux autres sont en cours actuellement à l'université Paul Valéry à Montpellier et à Rouen. Et de nouveaux blocages s'ajoutent à la dizaine d'universités déjà occupées par des étudiants. Après le site de Tolbiac, vous venez de le dire, à Paris, les étudiants et le personnel de la faculté de lettres de la Sorbonne Paris 4 ne peuvent plus rentrer dans le bâtiment. À Lyon, le grand amphithéâtre de l'université Lumière 2 est occupé depuis hier soir. Des étudiants ont dormi sur les lieux et ce matin, l'occupation était visible. Des poubelles renversées devant deux des entrées sur les quais du Rhône. Des banderoles aussi accrochées sur le bâtiment. Pour les opposants, cette réforme met en place une sélection à l'entrée à la faculté. Beaucoup d'étudiants syndiqués tractent, informent, organisent des débats sur la loi pendant ces journées de blocage. Mais la ministre de l'Enseignement supérieur, Frédéric Vidal, dénonce une campagne de désinformation sur la loi, sur France 2 ce matin. Certains disent aux étudiants qu'il n'y aura plus de compensation des notes. C'est faux. Certains disent aux étudiants qu'ils ne pourront plus redoubler. C'est entièrement faux.
Mathilde Erard, merci. Pour l'heure, la question de la convergence des luttes est toujours posée, mais elle reste assez théorique. Le député La France Insoumise, Adrien Quatennens, c'était l'invité de RFI ce matin. Il estime qu'il y a une bataille de l'opinion à mener pour faire la démonstration que les mouvements sociaux, tel celui à la SNCF notamment, ce n'est pas une bataille de quelques secteurs pour eux. C'est au premier de cordée que nous sommes de créer les conditions de la mobilisation. Mais pour cela, il faut du temps. On l'écoute.
Compte tenu de l'habileté d'Emmanuel Macron et de son accession au pouvoir, peut-être, oui, aura-t-il fallu 10 à 12 mois pour que les gens puissent traduire politiquement quelle était son action, finalement. On l'a vu au moment de la séquence ordonnance. Il venait d'arriver au pouvoir, il y avait de l'attentisme, parce que les gens se disaient, effectivement, il nous promettait la révolution, il renouvelle le personnel politique, alors laissons-lui le bénéfice du doute. Je pense qu'aujourd'hui, près de 12 mois après, les gens ont compris. Finalement, Emmanuel Macron, il a une mission très claire. Et il a pour lui sa cohérence idéologique. Il achève un processus qui a démarré bien avant lui. Il est en train d'essayer de pousser le curseur du libéralisme au plus haut niveau en France. Et par ailleurs, on le voit, comme dans d'autres pays où ça s'est fait, et les Français le remarquent, partout où on pousse le curseur du libéralisme à ce point, on a en parallèle une forme d'autoritarisme de la part du pouvoir qui est en place. Et l'exercice du pouvoir par Emmanuel Macron exacerbe à plein régime les travers de la Ve République. Ça, c'est très clair.
Sur la mobilisation, est-ce que vous êtes...
Voilà, Adrien Quatennens, donc c'était avec Frédéric Rivière. La guerre commerciale sino-américaine avec un nouvel épisode qui a commencé hier soir. Les États-Unis qui annoncent l'instauration de droits de douane qui peuvent atteindre 25% sur plus d'un millier, 1300 produits technologiques chinois. La liste des produits comprend des biens divers comme des téléviseurs, des composants électroniques, des produits chimiques, des véhicules à moteur ou même des appareils dentaires. Et ça représente une valeur de 50 milliards de dollars d'importation, estimée donc pour 2018. Laure Chouin, bonjour.
Bonjour.
Alors évidemment, comme toujours, la Chine annonce ce matin une réplique de même ampleur.
Oui, Pékin invoque en effet le proverbe chinois selon lequel il est seulement poli de rendre la pareille. Le ministère du commerce chinois donc répliqué un peu plus fortement que prévu, puisque jusqu'à ce matin, les analystes pensaient que la Chine se réfugierait derrière l'OMC et ne toucherait pas à des secteurs clés des importations américaines, à savoir le soja, les automobiles ou l'aéronautique. Ce matin, Pékin annonce finalement des mesures de rétorsion qui risquent de faire mal. Le montant est le même, que celui des sanctions américaines, 50 milliards de dollars annuels sur 106 familles de produits dont les droits de douane seront augmentés de 25%. Des voitures aux produits chimiques en passant par le whisky, les cigarettes, les avions de moins de 45 tonnes et le soja américain dont la Chine est pourtant le premier importateur. En 2017, elle en a acheté pour 14 milliards de dollars.
L'objectif affiché par Washington, c'est donc d'obtenir une modification des pratiques de la Chine en matière de propriété intellectuelle. C'est un enjeu considérable pour la lutte entre les deux puissances, en tout cas, qui visent au leadership mondial en la matière.
Oui, les États-Unis estiment que la Chine a violé les droits américains sur la propriété intellectuelle. Ils prennent pour cible ce qui a longtemps été la stratégie chinoise, l'imposition aux investisseurs étrangers d'un système de co-entreprise. En contrepartie de l'accès au marché chinois, les firmes américaines sont obligées de partager leur savoir-faire technologique avec les acteurs locaux. Sauf qu'aujourd'hui, les Chinois ont rattrapé une partie de leur retard technologique et sont désormais ceux qui déposent le plus de demandes de brevets au monde. Leur développement dans ce secteur des technologies de pointe fait peur à l'Occident et particulièrement aux États-Unis. La politique commerciale chinoise qui consiste désormais à privilégier son marché intérieur, y compris pour des produits technologiques à haute valeur ajoutée, peut être à la fois vue comme une aubaine pour l'innovation mondiale ou comme un danger, et c'est ainsi que le voit l'administration Trump, suscitant par là l'inquiétude des lobbies d'affaires sino-américains en interne, puisque de nombreux produits américains importés de Chine contiennent des technologies et donc de la valeur ajoutée américaine. Par ailleurs, les producteurs américains importent énormément de composants chinois et risquent eux aussi d'être pénalisés par cette guerre qui se profile.
Merci Anne-Laure Chouin. Le numéro 1 mondial de la musique en ligne a fait son entrée hier soir à Wall Street. Spotify, c'est son nom, qui finit sur un gain de près de 13% lors de cette première cotation à la Bourse de New York. Spotify, fondé il y a seulement 10 ans, qui n'a jamais réalisé le moindre dollar de bénéfices financiers, mais qui revendique plus de 70 millions d'utilisateurs payants à la fin de l'an dernier. Ça fait un acteur évidemment incontournable de ce marché mondial de la musique. Marie Viennot, bonjour.
Bonjour.
Donc, pas de bénéfices, mais des utilisateurs. Pourquoi est-ce que cela suffit pour les investisseurs?
Il faut savoir qu'il y a deux sortes d'entreprises pour les actionnaires. Celles avec lesquelles on peut espérer un gain par le versement de dividendes. Mais pour cela, il faut qu'il y ait un bénéfice. Or, Spotify n'en fait pas partie puisque l'entreprise ne prévoit pas de faire de bénéfices à court terme. Elle l'a clairement dit. L'entreprise suédoise fait en fait partie de la deuxième catégorie d'entreprises. Celle avec qui on peut espérer un gain parce que la valorisation boursière de l'entreprise va augmenter. Je l'achète aujourd'hui autour de 150 dollars par action, mais demain, si elle vaut plus, en revendant, je gagnerai de l'argent. Alors pourquoi penser que Spotify vaudra plus demain qu'aujourd'hui, même si l'entreprise a perdu 380 millions de dollars l'an dernier? Eh bien, comme pour la plupart des entreprises du numérique, le critère qu'ont les investisseurs en tête n'est pas un critère financier, combien l'entreprise va rapporter, mais un critère sociétal. L'entreprise répond-elle à une nouvelle tendance de consommation? Clairement, pour la musique, l'écoute en ligne, en streaming, est devenue le nouveau mode d'écoute. Il y a bien un marché, puisque Spotify a 70 millions d'abonnements dans le monde et en plus Spotify est leader mondial sur ce créneau. Voilà pourquoi, malgré ses pertes, Spotify est une entreprise très attractive. Savoir quand l'entreprise sera rentable, la question est encore subalterne quand on est investisseur. Elle est moins subalterne quand on est musicien, puisque ce sont les musiciens qui fournissent à Spotify sa matière première. Peut-être d'ailleurs vont-ils toucher des miettes de cette entrée en bourse, car à cette occasion, les producteurs, Universal Music, Warner, Sony, ont vendu les parts qu'ils détenaient dans Spotify et qu'ils avaient pris en amont de l'entrée à Wall Street. Ils ont réalisé réaliser des millions de plus-values, 1 milliard évalue-t-on même pour Sony. Ces gains vont-ils être partagés avec les artistes de leur catalogue et comment? C'est la question qui s'ouvre maintenant après cette entrée en bourse.
Merci beaucoup Marie Biennaud, ce qui confirme donc que si ça monte, c'est parce que ça va monter. La Russie accuse ce matin les services spéciaux britanniques et américains de l'empoisonnement de l'ancien agent double russe Sergueï Skripal, qui a sommé donc les Occidentaux de dialoguer plutôt que de la punir, la Russie, pour éviter une nouvelle crise des missiles de Cuba. Mise en cause donc par les Occidentaux, Moscou convoque une réunion de l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques à La Haye aujourd'hui pour exiger des réponses sur ces accusations qui la visent. Et le président Poutine dit espérer que cette rencontre va faire le point, mettre un point final à cette affaire qui a porté la confrontation est-ouest à son pire niveau depuis la guerre froide, puisqu'on le sait, il y a eu cette vague historique d'expulsion réciproque de diplomates. Claude Bruyot nous envoie sa correspondance de Moscou.
Depuis que le chef du laboratoire militaire britannique a reconnu officiellement que ses services n'ont pas été capables d'identifier la source exacte du Novichok, les officiels russes sont devenus carrément intenables. Le Kremlin fait feu de tout bois et demande à tout va des excuses à la Grande-Bretagne après avoir tout simplement accusé officiellement les services britanniques d'être à l'origine de l'empoisonnement de Sergueï Skripal et de sa fille. Hier, depuis la Turquie, où il participe au sommet tripartite sur la Syrie avec ses homologues Erdogan et Rouhani, Vladimir Poutine a déclaré plus sobrement qu'il souhaitait que la réunion de l'OIAC marque le point final de cette affaire. Les Russes disaient aussi ce matin plus calmement étudier les réponses aux 13 questions qu'ils ont envoyées la semaine dernière aux experts de l'OIAC. L'une d'entre elles portait sur le type exact d'assistance que la Grande-Bretagne a réellement demandé au secrétariat de l'organisation, en rapport bien sûr avec l'empoisonnement de Sergueï Skripal. Enfin, comme toujours, pour souffler le chaud et le froid, le Kremlin a fait dire à son ambassadeur à Londres aujourd'hui que la Russie était toujours prête à coopérer dans le cadre d'une enquête dite transparente.
Avant de revenir sur ce sommet qui commence en ce moment à Ankara entre la Turquie, la Russie et l'Iran, avec Antoine Basbous qui sera en ligne avec nous, un petit mot de ce qui se passe encore au Brésil, puisque la Cour suprême va décider ce mercredi si l'ancien président Lula ira ou non en prison dans les prochains jours. C'est un jugement très important. Nous sommes à 6 mois de la présidentielle pour laquelle il est, Lula, donné favori. Il a été condamné en appel à 12 ans et 1 mois de prison pour corruption. Lula, 72 ans, espère maintenant que la plus haute juridiction de son pays lui concédera un habeas corpus pour qu'il reste en liberté jusqu'à l'épuisement de tous ses recours. Nabil Hamel, le vote s'annonce particulièrement serré tout à l'heure.
En tout cas, l'ancien président Ignacio Lula da Silva affiche une combativité intacte, renforcée certainement par une opinion qui le donne favori à l'élection présidentielle d'octobre prochain. De quoi est-il condamné? D'avoir accepté un luxueux appartement en bord de mer de la part d'une entreprise de BTP impliqué dans le gigantesque scandale Petrobras. Le premier combat de Lula a été de farouchement nier ce fait. Il invoque d'ailleurs l'absence de preuves et voit dans cette affaire un complot pour l'empêcher d'être candidat. La Cour d'appel avait, quoi qu'il en soit, rejeté son précédent recours et il devait donc commencer immédiatement à purger sa peine de prison. Aujourd'hui, les 11 juges de la Cour suprême du Brésil vont statuer sur la question de l'incarcération. Difficile de connaître la réponse car cette instance est divisée en 2 camps presque égaux. Il suffit d'un seul juge pour faire basculer la décision en faveur de Lula. Si la Cour suprême refuse l'habeas corpus, l'ancien président brésilien pourrait être incarcéré dans les prochains jours. Si au contraire il peut rester en liberté jusqu'à épuisement de tous les recours, une décision finale pourrait alors appartenir au tribunal supérieur électoral, une autre instance. Donc c'est donc encore bien compliqué. Et en tout cas, cette affaire a mis le Brésil sous tension hier avec des manifestations des militants pro et anti-Lula. Et disons qu'une déclaration du chef d'état-major brésilien a suscité de vives réactions. Il affirmait notamment que l'armée restait attentive à ses missions institutionnelles et rejetait l'impunité.
Merci beaucoup Nabila Hamel. On en vient donc à ce sommet d'Ankara qui débute. Le président turc Recep Tayyip Erdogan reçoit donc le président iranien Hassan Rouhani et le président russe Vladimir Poutine, évidemment, pour parler sommet à 3 du conflit syrien. On est en ligne avec Antoine Basbous. Bonjour.
Bonjour.
Directeur de l'Observatoire des pays arabes. Poutine, Rouhani, Erdogan, d'abord sur la photo, si je puis dire, de départ de cette conférence. Est-ce qu'on peut parler d'un sommet des vainqueurs de la guerre en Syrie aujourd'hui?
Je crois qu'il s'agit d'un sommet d'étape entre ces trois puissances pour se répartir la Syrie centrale, la Syrie maritime et occidentale entre leurs trois armées, c'est-à-dire entre l'armée russe qui contrôle la côte, l'armée iranienne et ses supplétifs de l'international djihadiste qui contrôle l'intérieur du pays, et la Turquie qui s'est taillée une partie de contrôle sur sa frontière. Et donc, ils veulent établir un protocole de cohabitation et de bonne conduite entre leurs trois armées qui sont déployées dans des zones d'influence réparties entre ces trois pays. Mais il ne faut pas oublier que à l'est de l'Euphrate, ce sont les États-Unis qui se sont imposés avec leurs alliés de la coalition kurdo-arabe, et cette zone-là contrôle près de 90% des ressources syriennes en hydrocarbures, et ça se passe sous contrôle américain.
Donc là, effectivement, il y a un partage, on peut dire, encore du pays, avec effectivement des richesses qui se trouvent aussi du côté de l'Est, comme vous l'avez dit, Antoine Basbos. Est-ce qu'on peut imaginer qu'il y aura encore des confrontations, qu'il peut y avoir des confrontations entre ces deux coalitions, si je puis dire, notamment Russie, États-Unis? On parle, par exemple, de ce qui se passe au Kurdistan et par exemple, ce qui se passe actuellement à Manjib.
D'abord, au sein de la coalition A3 qui se réunit aujourd'hui à Ankara, il y a beaucoup de rivalités. Les puissances turques qui représentent l'islam sunnite et l'iranienne, la puissance iranienne qui représente le chiisme triomphant et djihadiste, eh bien, il y a beaucoup de frictions. La Russie arbitre parce qu'elle a la maîtrise du ciel et c'est la puissance qui a sauvé Assad et les Iraniens de la défaite en 2015. Donc même au sein de cette coalition, il y a des rivalités, sans oublier qu'entre cette coalition-là et les Américains, il y a eu près de 200 soldats mercenaires russes qui ont été tués au mois de février par les forces américaines parce qu'ils ont voulu tester les Américains et franchir l'Euphrate pour contrôler une installation gazière de Conoco. Donc vous voyez, la guerre n'est pas finie, ces vainqueurs-là... que vous désignez comme vainqueurs ne le sont pas parce qu'il y a une capacité de nuisance qui peut être exercée et par les puissances régionales, et par Israël, et par les États-Unis. La situation n'est pas du tout stable pour cette coalition. C'est l'enlisement, même si en apparence, Assad est un seigneur de guerre qui se tire le mieux par rapport aux autres, mais sans être placé en permanence, en perfusion, il s'effondrerait aussitôt.
Mais j'ai l'impression, Antoine Basbous, pour terminer, que malgré tout, d'après ce que vous nous dites, on a cette cassure du pays entre des zones chiites et des zones sunnites, plutôt à majorité. Est-ce qu'on peut dire que c'est ça aussi le résultat de ce conflit ?
Il y a eu un chambardement démographique majeur en Syrie. Ce pays a perdu la moitié de sa population qui est partie notamment en exil. Mais cette partie-là qui s'est exilée, ce sont des sunnites. Et donc, autour de Damas, au centre du pays, à Homs, le verrou central, eh bien, il y a beaucoup moins de sunnites qu'avant. Et la dernière bataille de la Ghouta a fait fuir près de 300 000 sunnites qui étaient restés là. Et qu'est-ce qui les remplace ? Ce sont des colons chiites importés par l'Iran. Il y a un projet de chiitiser la Syrie au détriment de la majorité sunnite qui est chassée du pays.
Merci beaucoup. Merci Antoine Basbous d'avoir été en ligne avec nous. Vous êtes le directeur de l'Observatoire des pays arabes. Un petit mot du temps avec un ciel plutôt orageux, un temps orageux sur la moitié est, plus variable sur la moitié ouest. L'après-midi, il fera de 11 à 16 degrés de Brest à Strasbourg, 15 à 19 sur la moitié sud et sur la Corse. Édition réalisée avec Yacine Bouzard. Prochain journal à 18h avec Aurélie Kiffer.